Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Certains du capitalisme dans une nouvelle émission consacrée aujourd'hui au populisme. Et pour en parler, nous sommes avec des membres du collectif de la revue Stoff qui a consacré dans son premier numéro un article donc au populisme qui s'appelle « Populisme sous-titré, une trajectoire politique de l'humanité superflue ». Donc bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors du coup, c'est un article du coup qui est vraiment placé stratégiquement dans le numéro 1 de la revue Stoff, puisque c'est celui qui suit immédiatement la trame. On va dire que c'est un peu l'article le plus général, le plus programmatique, entre guillemets, même si je sais que ce mot est chargé du coup pour les gens qui composent la revue. Mais du coup, c'est voilà, une tentative de penser ce qu'on appelle communément le populisme, mais plus largement, une tentative de penser celui-ci comme, disons, ce qui permettrait de définir l'époque post-restructuration des années 1970. Et donc, pas seulement comme un phénomène politique incarné par Mélenchon, Marine Le Pen, etc., mais plus généralement la tendance actuelle des luttes sociales et dans le cadre du capitalisme restructuré, comme presque la phase du mouvement réel social et politique qui correspond donc à la nouvelle phase du capitalisme depuis les années 70. Du coup, peut-être pour commencer par un mot qui est beaucoup utilisé, la restructuration. Comment est-ce que vous caractérisez l'époque qui précède immédiatement la restructuration des années 70, notamment pour les aspects justement qui contrasteraient justement avec l'époque actuelle caractérisée par le populisme. Qu'est-ce que la restructuration et qu'est-ce qu'elle change, disons, à ses paramètres et qui donnerait naissance à ce que vous appelez le populisme?
Alors comme tu le dis, on essaie de comprendre à travers le phénomène du populisme non pas simplement une dérive idéologique, mais l'expression d'une transformation des rapports sociaux qui s'est jouée à cette période de la restructuration et après. Et en fait, on appelle du coup restructuration une transformation de l'antagonisme de classe et une transformation de la structuration même de cette classe qu'on appelle le prolétariat, qui avant cette restructuration de la fin des années 60 et des années 70, en fait, était intégré dans la reproduction sociale capitaliste, au sens où elle bénéficiait par, une redistribution des profits, une certaine redistribution des profits, d'une progression sociale, et à la fois, en plus de cette intégration économique, qui passait par des systèmes d'assurance, d'augmentation des salaires, etc. Une représentation également symbolique dans des syndicats, au niveau de l'entreprise, dans des partis, qui avaient une véritable force politique pour influencer dans ce jeu, en représentant donc le prolétariat sous la forme d'une classe, la classe ouvrière. Voilà, donc c'est cette configuration-là qui domine encore aujourd'hui l'imaginaire politique, mais qui, à notre sens, elle n'est pas tout à fait éclairante pour comprendre la situation politique actuelle.
Bon, l'imaginaire politique marxiste, faudrait-il préciser, parce que c'est pas l'imaginaire politique globalement. En quoi, à partir de là, émerge la question du populisme telle qu'elle est envisagée dans ce texte? Ben, l'hypothèse générale de ce texte, c'est de, comme le disait Lamy, de voir le populisme comme en fait une transformation politique qui accompagne cette transformation sociale opérée par la restructuration. Donc cette transformation sociale, en ce qu'elle met fin progressivement à toute possibilité d'une représentation politique du prolétariat, étant donné que par ailleurs il n'y a plus de marge de manœuvre pour l'affirmation du prolétariat au sein même du rapport capitaliste, avec la disparition progressive du coup de cette représentation politique du prolétariat sous la forme des partis, des syndicats et plus généralement une série d'institutions qui permettaient l'existence prolétariat dans la société capitaliste. Avec cette disparition progressive de ces représentations, de ces formes de représentation, l'hypothèse du texte, c'est de dire que on peut pas se contenter d'appréhender la disparition de cette représentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'à partir de ce moment-là, pour le dire dans les termes de théorie communiste, l'appartenance de classe n'est plus quelque chose qui permet une organisation dans la société capitaliste, mais contre la société capitaliste, justement par cette représentation des intérêts du prolétariat dans la société capitaliste elle-même. Mais qu'il faut en quelque sorte aller plus loin, au-delà de ce constat, c'est-à-dire ne pas se contenter de dire que l'appartenance de classe, désormais plus viable, c'est-à-dire ne peut plus réellement fournir la base d'une organisation politique pour le prolétariat, mais qu'il faut en fait voir aussi comment très tôt dans la restructuration apparaissent petit à petit des modes d'appartenance qui en fait vont en quelque sorte supplanter l'appartenance de classe comme mode d'organisation, comme mode d'existence. Et que ces différentes appartenances nouvelles, ethniques, nationales, raciales, donc on ne va pas faire le catalogue ici, mais le texte essaye de les explorer dans toute leur variété, en fait, toutes ces nouvelles formes d'appartenance qui apparaissent du fait de la transformation sociale opérée par la restructuration, elles sont à prendre au sérieux. Pas simplement les écarter d'un revers de la main en disant que on aurait là en quelque sorte simplement une sorte de gang idéologique dont il faudrait faire abstraction pour voir l'essentiel, pour voir le prolétariat en tant qu'il se distinguerait du peuple, en tant qu'il serait donc le prolétariat en tant qu'il serait toujours déjà en quelque sorte le signe d'une rupture peut-être pas imminente mais en tout cas nécessaire avec les rapports socio-capitalistes. Donc ce texte c'est un peu une manière de se confronter de façon désillusionnée à ce qui est, sans chercher dans la grande théorie de la restructuration et par conséquent dans la grande théorie de la communisation, une sorte de refuge qui nous permettrait de dire de l'extérieur, c'est-à-dire dans une position d'extériorité vis-à-vis de ce merdier qui est le populisme, de dire qu'en fait, bon, il y a quand même toujours antagonisme de classe qui contient son dépassement nécessaire, et ainsi de suite. Donc c'est là encore une forme d'ouverture, non pas une ouverture, disons, inconditionnelle, sans cadre, sans orientation, mais une ouverture pour, encore une fois, à une enquête empirique, mais aussi théorique, sur du coup, ce qui fait obstacle à ce qui pourtant avait été annoncé comme du coup, la nouvelle révolution portée par le rapport de classe dans le cycle dans lequel nous nous trouvons. Donc, implicitement, mais aussi en partie explicitement, il y a dans tout ça évidemment un débat avec la revue française Théorie communiste.
Donc, si je comprends bien, en fait, du coup, votre analyse, ce que vous partagez avec Théorie communiste, c'est l'idée que le compromis de classe fordiste en France après la Seconde Guerre mondiale, où finalement il y avait en échange finalement d'un renoncement du prolétariat à une soi-disant révolution imminente, en tout cas qui était ce que craignaient les classes dominantes françaises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc voilà la promulgation de tout un tas de mesures sociales qui intégraient une partie de la classe ouvrière, hein, évidemment pas toute la classe ouvrière, pas la classe ouvrière immigrée et pas pas les femmes. On en reparlera plus tard de ce segment non intégré, notamment racisé. Mais disons que voilà, cette classe ouvrière intégrée au capitalisme pendant le fordisme, avec du coup un compromis basé sur l'augmentation de la productivité qui permettait une augmentation des salaires, le développement d'institutions sociales, etc. À un moment, ce modèle s'est épuisé, a épuisé son potentiel de profit et donc la base même de ce compromis. Et donc la classe capitaliste, en réaction à cette crise du fordisme, a opéré de l'automatisation, des délocalisations, un éclatement mondial du processus de production, une tertiarisation des emplois, etc., qui a fait en gros éclater le compromis fordiste et qui a un peu désintégré la classe ouvrière. Et du coup, ce que vous avancez, c'est que à partir de là, et de donc la destruction finalement des conditions objectives de l'affirmation du mouvement ouvrier, puisque la marge de manœuvre est très réduite avec le chantage de délocalisation, l'automatisation, la mondialisation, etc., etc., que la fin du mouvement ouvrier et la fin de l'identité ouvrière n'ouvre pas que la voie, ou n'ouvre peut-être même pas la voie au fait que les prolétaires, du coup, vivent leurs conditions uniquement comme une condition imposée, et que du coup, ils peuvent, dans des circonstances particulières, notamment une crise mondiale du capital, s'affirmer contre cette condition qu'ils ne perçoivent plus que comme finalement une condition imposée, et qui ne leur apporte plus rien, et que donc, en cherchant à survivre en dehors du travail, et évincé du processus de production du travail, eh bien, il créerait le communisme en même temps que l'insurrection mondiale contre le capital. Disons peut-être de manière un petit peu plus réaliste et de manière un peu moins, futuriste ou utopique.
Déductible.
C'est ça. Vous partez plutôt d'une analyse un peu plus empirique de la situation actuelle, du cours de l'histoire des luttes sociales et politiques, en faisant une analyse critique plutôt immanente du populisme. C'est-à-dire plutôt que de condamner le populisme en le résumant à une trahison du prolétariat ou à de l'anticapitalisme tronqué ou autre, vous essayez de penser ce que nous dit le populisme de notre époque. Et du coup, le populisme pour vous, c'est pas un retour traditionnel de l'interclassisme, du peuple tel qu'on l'a connu sous la Révolution française, pendant les révolutions du 19e siècle. C'est plutôt une phase nouvelle. Mais du coup, comment est-ce que, en utilisant le même mot, vous pouvez distinguer du coup le populisme, entendu comme phase actuelle des luttes sociales, du populisme, tous ces mouvements qui ont émaillé l'histoire du 19e et du 20e siècle interclassistes, qui s'affirmaient au nom du peuple et qui avaient souvent une composante prolétarienne, évidemment, mais aussi une composante de classe moyenne et qui était souvent à direction de classe moyenne. Et souvent, c'est la représentation aujourd'hui majoritaire dans le marxisme de ce que c'est que le populisme, c'est-à-dire une forme d'interclassisme à direction petite bourgeoise de classe moyenne. Et comment est-ce que vous distinguez aussi, et j'ai l'impression que ça c'est quand même un des arguments forts du texte, le populisme entendu comme cette trajectoire du prolétariat, parce que c'est quand même une affirmation très forte, de dire que finalement le prolétariat, dans la phase actuelle du capitalisme et des luttes sociales, c'est le peuple. Ce qui fait que vous distinguez le populisme comme étant le prolétariat, du populisme entendu comme le phénomène politique qui, bien sûr, est critiqué de manière... qui est évidemment critiqué dans le texte, comme tous ces partis qui surfent justement sur le peuple, l'idée de souveraineté, de nation, d'État, etc. Comment est-ce que, du coup, vous jouez justement avec cette polysémie du concept de populisme?
Effectivement, il y a deux choses à distinguer dans l'approche. D'une part, ce qu'on pourrait appeler la forme sociale que prend aujourd'hui le prolétariat dans, d'une part, sa désintégration et d'autre part, ses tentatives de reformer du collectif qui s'appelle donc le peuple qu'on appelle aujourd'hui le peuple, et le phénomène politique du populisme en tant que, on pourrait dire, captation politicienne de cette situation objective. Et cette captation politicienne, bien évidemment, essaye de aussi neutraliser d'une certaine manière une dimension potentiellement explosive de ce populisme en figeant son identité dans des notions d'union nationale, d'union nationale exclusive, etc., comme on les connaît. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas de similarité entre ces tentatives de captation politicienne avec d'autres phénomènes populistes nationalistes de l'histoire. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est la place centrale que a pris depuis une, disons, quinzaine d'années le populisme et cette captation politicienne dans l'espace politique et dans la représentation de soi d'une grande partie du prolétariat. Hein, à part la partie du prolétariat qui serait en fait celle héritière héritière d'un mouvement social des années 70-80, ou bien qui serait cultivé d'une idéologie de gauche qui lui permet de ne pas s'associer à ce populisme. Aujourd'hui, la représentation de soi d'une grande partie du prolétariat, ce sera cette forme-là du peuple. Et on essaie de comprendre la prédominance en fait, de ce mode-là aujourd'hui. Alors aussi, je pense que c'est important de signaler qu'on ne nie pas le fait qu'il y a une forme, finalement, on pourrait dire, consensuelle et intégrative du populisme dans l'Union nationale et dans une sorte de réaction, comme finalement réponse au déclassement des classes moyennes et une peur de tomber dans une misère et donc s'opposer à l'autre misère qui vient, souvent sous la forme de l'étranger. Mais on estime que ce n'est pas la seule explication du phénomène du populisme. On estime qu'il a une autre trajectoire et une autre histoire que juste celle-ci. On a quand même un autre facteur qui est celui en fait de la recherche par, disons, l'ensemble des individus qui ont été désolidarisés de leur identité ouvrière passée, recherche de former du collectif, de former une communauté. Et cette recherche-là, elle n'est pas, disons, essentielle à tout rapport social dans tous les temps. Cette recherche-là, elle est conditionnée par la perte d'une identité et la désocialisation totale à laquelle ont été condamnés les individus par la restructuration et par la transformation aussi des modes de travail et des modes d'existence dans cette période de restructuration. On peut en fait représenter comme une forme d'atomisation totale des trajectoires individuelles et des parcours professionnels ou non professionnels.
Je pense qu'en fait, avec cette idée d'une recherche de communauté conditionnée par la restructuration, on touche un petit peu au point névralgique de ce texte. C'est-à-dire à la fois sa thèse centrale et en même temps la thèse qui a le plus été débattue entre nous dans le collectif, parce qu'il y a une ambivalence dans cette thèse. Elle peut être tirée dans deux sens. Le premier sens, c'est un sens humaniste, en fait, consiste à dire qu'en gros, les humains ont besoin de communautés, essentiellement. Et que... c'est ce besoin qui leur est inhérent qui les emmène donc chercher à faire communauté, c'est-à-dire à tisser des liens organiques pour vivre ensemble, en quelque sorte. Et que donc la recherche de la communauté par des prolétaires, de ce point de vue humaniste, il faudrait en faire une évaluation positive. Il y aurait quelque chose à sauver là-dedans, voire quelque chose à affirmer. Ça, c'est la première interprétation qu'on pourrait en faire, enfin, le premier sens dans lequel on peut tirer cette thèse. L'autre sens dans lequel on peut tirer cette hypothèse, ça consisterait en fait au contraire à avoir une approche, disons, plus, j'aimerais dire, ça irait plus dans le sens du réalisme que tu évoquais tout à l'heure. le réalisme, parce que, de fait, qu'est-ce qu'on trouve dans différentes pratiques et idées prolétariennes telles qu'elles existent aujourd'hui? Et je crois que c'est ce qu'on a pu voir de façon très frappante, dans, notamment ici en France, dans le mouvement des Gilets jaunes. Bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit effectivement des discours centrés de différentes manières autour de la question de la communauté. Et évidemment, si parfois ce texte donne l'impression d'aller un peu chercher dans tous les sens, c'est qu'effectivement, cette communauté, ben, elle se dit en plusieurs sens, quoi. Elle se dit à plusieurs niveaux. Déjà, les niveaux, ben, on peut les entendre au sens d'échelle. Communauté nationale, ou au-delà même des communautés nationales, des formes de communautés raciales, plus ou moins expresses, ou des communautés religieuses qui dépassent aussi les nations. Ou au contraire, des formes de communautés locales qui trouvent à s'exprimer, typiquement dans des ronds-points, ou en tant qu'habitants de certains endroits, éloignés des grandes villes. Donc pourquoi cette façon-là de voir les choses est plus réaliste, ben, c'est dans le sens où elle considère en fait les pratiques et les idées prolétariennes dans ce qu'elles sont et pour ce qu'elles sont. Et de telle sorte que du coup, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'interprétation, disons, plus ultra-gauche du populisme. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ben, c'est justement l'idée selon laquelle, quand j'entends le mot peuple, je me demande quel mauvais coup on prépare au prolétariat. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, moi, je suis en contact avec la réalité du prolétariat, c'est-à-dire la classe de ceux qui sont contraints à vendre leur force de travail, la classe des sans-réserve, qui ne correspond en rien à cette représentation des membres de la nation, au sens le plus large, qui inclut en fait toutes les classes. Prolétariat versus peuple. Et donc là, voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il y a une ambivalence dans ce texte qui est à discuter et qui vise aussi à provoquer la discussion. Parce que nous, globalement, dans le collectif, on n'est pas pour le fait de dire que voilà, il y aurait quelque chose à promouvoir dans l'idée d'un peuple, ou que on aurait là une solution à des problèmes pratiques posés actuellement dans la conjoncture. Mais par ailleurs, disons qu'on le veuille ou non, c'est à ça qu'on est confronté dans les mouvements sociaux et politiques actuels, qui prédominent actuellement.
Rapidement, juste pour compléter ce que vient de dire l'ami, la forme que prendrait cette tension à la communauté, comme on l'appelle dans le texte, et qui ne serait pas inscrite de manière inhérente dans toute expérience humaine, cette tension vers la communauté, mais qui est produite par la perte de l'identité ouvrière et comme effet de la restructuration, c'est aussi le simple fait que la reproduction sociale n'est plus entièrement assurée par le travail, à la reproduction sociale au sens de subvenir à ses besoins, mais aussi au sens de vivre dans un collectif en ayant sa place dans ce collectif-là, n'est plus assurée par le travail parce qu'il n'y en a pas, ou parce que celui-ci est complètement atomisé et fragmenté. Et du coup, le populisme, tel qu'il peut s'exprimer parfois, est une tentative de prendre en charge sous la forme d'une communauté qui peut être locale ou identitaire, cette reproduction sociale d'un point de vue matériel et d'un point de vue qu'on pourrait dire plus expérientiel ou collectif ou symbolique. Voilà. Et c'est ce qui se passe d'une certaine manière dans des mouvements qu'on peut observer, où on essaye de retisser du lien, se réintégrer quelque part dans un groupe, et s'entraider. Voilà, la bricole, l'entraide, la débrouille, c'est des éléments qui sont aussi propres à cette tension vers la communauté comme conséquence de la désintégration passée.
Du coup, si je comprends bien, qu'on penche plutôt pour une hypothèse une approche un peu anthropologique du populisme qui en ferait finalement une espèce de d'instinct, finalement, de réaction à l'automisation capitaliste qui peut évidemment avoir un potentiel révolutionnaire, puisque c'est une thèse finalement que les êtres humains seraient faits pour le communisme, mais qui peut être aussi potentiellement réactionnaire, puisque ça voudrait dire que les êtres humains peuvent être faits pour le, au contraire, pour les communautés, qui fait que finalement le communautarisme finalement pourrait être la forme du communisme. On sait que c'est, ce sont des arguments par exemple qui sont avancés par des penseurs comme Francis Cousin ou Alain de Benoist. Donc par-delà, voilà, cette hypothèse anthropologique, j'ai l'impression que ce qui sous-tend le texte, c'est que le populisme, ce serait bien, comme dans les définitions un peu conventionnelles, une opposition entre le peuple, d'une part, et l'oligarchie, d'autre part, avec une définition finalement très spatiale et très finalement existentielle, expérientielle, si je puis dire, de cette opposition, dans le sens où il y aurait d'un côté le peuple qui serait enraciné dans un territoire, dans une culture, et donc ça vaudrait à la fois pour le peuple majoritaire, donc en France, voilà, les blancs, éventuellement de tradition chrétienne, modérée ou laïque, ou que ce soit pour le peuple minoritaire, notamment les musulmans en France, et qui du coup parviendrait à survivre à l'état du monde actuel causé par la restructuration du capitalisme, par justement des solidarités, par une manière de refaire du lien social, là où justement le lien social assuré par le mode de production capitaliste à travers le compromis social fordiste, finalement, voilà, n'existe plus. Mais et malgré tout, est-ce que dans cette vision finalement de l'état du monde actuel, est-ce que la question un peu provocante que j'aurais envie de poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une exagération, mais qui peut être positive, hein, si on reprend voilà, l'idée d'Adorno qu'il n'y a que l'exagération qui est vraie, mais est-ce que par exemple l'idée que le prolétariat serait aujourd'hui déjà le groupement indifférencié des surnuméraires, alors que, bon, objectivement, on a l'impression que il n'y a jamais eu autant d'ouvriers et d'employés dans le monde. Est-ce que, finalement, cette thèse ne risque pas de recevoir les mêmes critiques qu'a reçue la thèse, par exemple, de la critique de la valeur sur la crise terminale du capitalisme ou la crise du travail Et est-ce que finalement, voilà, est-ce que il n'y a pas une exagération du fait que il y aurait effectivement une crise du travail, une crise de la socialisation du travail, une crise de l'identité aussi fournie par le travail, dont d'ailleurs il est fait mention hein, dans le texte. Donc, et aussi par rapport à ça, évidemment, pas non plus, il y a des phrases très fortes et puis d'un autre côté, évidemment, des nuances. Et voilà, comment est-ce que vous positionnerez vis-à-vis de ce genre d'objection ou ce genre de questionnement vis-à-vis d'une thèse qui semble s'intéresser avant tout dans l'état du monde existant aux tendances lourdes qui effectivement annoncent l'avenir du capitalisme, mais qui peut-être peuvent sembler à certains observateurs du moins disproportionnées pour qualifier l'état du monde tel qu'il existe maintenant.
Effectivement, ce texte peut donner une impression très globale et totalisante qui livrerait donc une explication pour l'état du capitalisme dans le monde entier. Alors, il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un texte avant tout expérimental et hypothétique qui vise avant tout à comprendre par des esquisses d'analyse ce qui est en train de se passer avant tout dans les anciens centres européens du capitalisme, notamment la vieille Europe. C'est ce qu'on essaye de montrer par une analyse un peu empirique de la sociologie du vote dans des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède. Alors on va aussi un peu voir ce qui se passe aux États-Unis. Et dans ce niveau-là de l'analyse, cette étape-là qu'on a menée et qui n'est qu'une étape sur peut-être une réflexion plus longue, on n'a pas encore étudié les restructurations du rapport de classe dans finalement les centres de main-d'œuvre ouvrière qui peuvent, eux, encore fonctionner sous des modalités où le travail est le facteur central de socialisation sous une forme ouvrière industrielle. Donc on n'a pas non plus mis l'accent sur la forme du populisme telle qu'elle existe, par exemple, au Brésil. Aujourd'hui, voilà. Donc on s'est un peu centré sur le populisme européen et en certaine mesure américain. Et de ce point de vue-là, il nous semble quand même que la thèse de la fin du travail comme finalement moyen central de socialisation, d'intégration dans la société, et même dans une certaine mesure de reproduction sociale, et en partie remise en question, voire disqualifiée, par la restructuration. Donc, du coup, ceux qui et celles qui ont du travail et qui ne sont pas condamnés à la rapine ou aux économies informelles, ce travail salarié donc, ces personnes-là ne trouvent pas dans le travail une manière d'affirmer une appartenance de classe, une identité collective. Et ça, je pense que c'est une thèse qu'on défend. Néanmoins, on ne va pas, dire qu'il n'existe plus, par exemple, d'antagonisme de classe, et on essaie de comprendre les formes que peut prendre cet antagonisme-là, des formes qui sont en partie aussi fantasmées, mais on n'est pas dans l'idée que, finalement, la domination du capital serait abstraite par rapport à des individus qui sont tous atomisés face à sa domination.
Là, je pense qu'on défendrait quand même tous dans le collectif le fait de parler de la désintégration de tout lien social construit par le travail en tant que tendance lourde et à prendre en compte à tout moment dans l'analyse. C'est que, en fait, justement, comme le disait l'ami, pour rebondir, c'est que c'est une manière de dire que ce n'est plus le travail qui va permettre la construction et l'affirmation d'une appartenance collective, c'est-à-dire que ce n'est plus le travail qui va permettre la représentation politique. Et c'est ce qui fait que, même si on se limite aux formes politiciennes du populisme, donc même si on se limite à ça, ce qui n'est pas l'objet du texte, hein, mais si on devait se limiter à ça, on constate que c'est finalement une réalité assez secondaire. C'est pas ça qui fait l'efficace du populisme parlementaire. Quoi. C'est pas de parler du prolétariat, c'est-à-dire de parler des conditions d'existence concrètes liées, à la double journée, par exemple. Si on pense pendant le mouvement des Gilets jaunes, si on pense au mouvement des Gilets jaunes, par contraste aux femmes Gilets jaunes qui apparaissaient soudainement, des femmes prolétaires qui apparaissaient sur les plateaux télé pour parler de leurs conditions d'existence. Typiquement, voilà, Marine Le Pen ou Mélenchon, c'est rarement ça. Corbyn, peut-être un peu plus, mais bon, disons que c'est pas ça non plus qui l'emporte, quoi, en fait. C'est pas ça qui fait, d'une part, qui recueille la plus grande partie des votes. Et c'est pas non plus ça qui fournit ensuite l'impulsion pour les gouvernements effectifs. C'est là qu'on revient du coup à l'ambivalence du texte avec cette thèse d'une tension à la communauté. Puisque en fait la revendication d'une tension à la communauté dans ce texte, en fait ça a quand même ça aussi quelque part une dimension descriptive puisque ça permet justement de mettre en avant l'appartenance au-delà de l'économie. Hein, c'est l'idée d'une appartenance au-delà de l'économie. Donc, justement, en fait, c'est confusément, en quelque sorte, au niveau des discours, on trouve des indices qu'il s'agit, en fait, de retourner à ce que le texte appelle des qualités sensibles au-delà de l'économie. Donc, le lieu où je vis, les gens que je rencontre, les gens qui me ressemblent, et ainsi de suite. Donc, l'importance croissante que prennent ces choses-là, dans dans les formations collectives contestataires contemporaines.
Après, ce serait compliqué de dire simplement que L'affirmation de ses qualités sensibles se fait sous un mode de la défense de l'identité locale, enracinée contre simplement du coup une classe déterritorialisée, mondiale, que sous cette forme-là. Alors, du moins, cette forme-là est l'expression de quelque chose qui peut être plus ambivalent qu'une réaction de la défense du sol national contre les étrangers. Elle peut aussi nous dire autre chose. Et cette autre chose que peut nous dire cette affirmation des qualités sensibles, là, comme on a parlé à l'instant, c'est en fait une logique, une trajectoire, encore une fois, de non seulement désocialisation qu'il y a eu, mais aussi de finalement d'expulsion territoriale d'une grande partie de cette ancienne classe ouvrière en dehors de lieux de vie communs, en dehors de tout ancrage en fait, en dehors notamment des centres-villes, des centres de la vie en fait collective et productive, relégués dans des non-lieux, des banlieues, des zones périurbaines, des campagnes désaffectées. Et les formes d'expression un peu immédiate que prend le populisme peut aussi être une sorte de, non pas revendication d'une appartenance, d'un ancrage territorial qu'on aurait contre ceux qui n'en auraient pas besoin, mais au contraire une revendication d'une appartenance à quelque ancrage que ce soit quand on l'a perdu, contre ceux et ceux qui, celles et ceux qui peuvent avoir une mobilité parce qu'en fait ils et elles ont su se gagner un ancrage dans les lieux centraux de la circulation des hommes et des marchandises. Voilà, donc on essaie aussi d'analyser peut-être des formes d'expression politique comme le fait de se retrouver dans les centres-villes alors qu'on est expulsé de ces centres-villes-là de manière plus ambivalente et plus fine peut-être que juste une affirmation d'appartenance identitaire.
Mais du coup, dans votre analyse du phénomène populiste, donc vous mettez bien l'accent juste sur le fait que le populisme serait voilà, une tension à la communauté, mais d'un autre côté, comme vous le reconnaissez vous-même, cette tension à la communauté, elle est souvent tension à une communauté exclusive, excluante, donc raciste, sur des bases principalement culturalistes actuellement, nationalistes. Et c'est ce qui explique aussi le fait que, eh bien, c'est actuellement, comme le montre très bien d'ailleurs le texte, l'extrême droite qui est la principale force politique qui capte justement ce populisme comme mouvement réel du prolétariat et qui, voilà, en fait une capture politicienne. Mais s'il en fait une capture politicienne, c'est bien parce qu'il arrive à exprimer malgré tout, même si c'est dans des termes particuliers, c'est-à-dire plutôt qu'une reconfiguration de la lutte des classes entre le peuple contre l'oligarchie, même si évidemment il reprend un peu ce langage, il en fait avant tout une question de combat culturel, c'est-à-dire voilà, il faudrait préserver l'essence d'un peuple qui serait catholique, laïque, blanc, avec telle et telle tradition. Donc comment est-ce que vous appréhendez quand même cette phase moins glorieuse pour le coup du populisme, qui est voilà, cette tension à la communauté, mais une tension à la communauté qui on a l'impression partout, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faudrait noter, qui est toujours une tendance à une communauté exclusive, où on voit les frontières comme des barrières, des remparts contre le grand capital, où on voit l'État-nation et sa souveraineté contre des remparts face à la mondialisation qui broie justement les individus et les liens sociaux qu'ils peuvent former en dehors du marché. Donc, pourquoi est-ce que du coup, s'il s'agit d'une tension à la communauté, cette communauté prend systématiquement des formes particulières? Est-ce que c'est parce que c'est l'affirmation justement de qualités sensibles et particulières? Et pourquoi est-ce que ça ne prendrait pas, par exemple, la forme d'une forme d'humanisme, par exemple?
Bah, je pense que du coup on retrouve un petit peu là la tendance réaliste du texte, quoi. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est un constat historique qu'on peut faire. Disons la phase de l'universalisme prolétarien et de l'internationalisme, c'est un petit peu une parenthèse dans l'histoire sociale, quoi. Évidemment, il y a eu d'autres tendances à une internationalisation des luttes, des femmes, notamment au tournant du siècle, au début du XXe siècle, lutte LGBT plus tard, à partir des années 60-70. Globalement, les communautés sont des formes d'appartenance exclusives. C'est en tant que telles qu'elles se déterminent, quoi, en tant que communauté. Cette dimension moins glorieuse du populisme, c'est malheureusement la dimension à laquelle nous devons nous confronter. Et ça a quelque chose de vertigineux quand on s'y confronte réellement, puisque en fait, c'est là qu'on voit que faire le constat que l'appartenance de classe apparaît comme une contrainte extérieure, c'est-à-dire en prenant ensuite à partir de ce constat-là un pas de plus qui consiste à dire en fait, viennent s'ajouter des formes d'appartenance nouvelles, qui sont désormais par contre des formes d'appartenance exclusives majoritairement, comme tu le dis bien, ben, ça implique en fait que, ben, du coup, sans la base du travail qui garantissait une forme de socialisation analogue en différents endroits du monde et qui constituait, comme le dit le texte, la base matérielle de l'internationalisme et de la solidarité entre ouvriers indépendamment des nations et des races et ainsi de suite, ben, la disparition de cette base matérielle-là, c'est aussi, en fait, finalement, manifestement, la disparition de toute base objective donnée pour une organisation au-delà du caractère exclusif des communautés. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, c'est ce que disait l'ami à l'instant, en tout cas, c'est comme ça que je le qualifierais, une manière de prendre au sérieux ce désespoir. En fait, c'est-à-dire réellement le fait de ne plus avoir grand-chose à part en fait une forme de valorisation de ce qui est à moi ou de ce qui m'environne sans que cela doive passer du coup par toute la sphère du travail dont de toute façon je suis dépossédé. Il ne s'agit pas de s'en exalter, il s'agit plutôt de le prendre en compte comme un paramètre de la période actuelle.
Oui, c'est un constat qui est pas nostalgique, finalement, du bon vieux mouvement ouvrier, mais sans être pour autant affirmatif en disant que, finalement, cette nouvelle phase, finalement, de la lutte des classes serait porteuse de quelque chose d'émancipateur, mais c'est plus une réalité un peu malheureuse à laquelle il faut se confronter. Certains y voient peut-être des potentialités positives et d'autres n'y voient manifestement que voilà un triste état du monde à partir duquel il faut réfléchir et s'organiser, quoi.
Mais très certainement ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, et le texte s'y réfère aussi plus ou moins explicitement, il y a tout un tas d'entrepreneurs de ces nouvelles formes d'appartenance, quoi, qui justement eux s'en exaltent, eux et elles s'en exaltent, hein, mettre en avant, par exemple, la référence à l'intégrité des cultures traditionnelles ou le retour à certaines manières de pratiquer la religion et tout ça comme des voies pour une émancipation nouvelle, quoi. En fait, c'est là qu'on voit que quand on parle de populisme, on ne parle pas d'un phénomène local parmi d'autres. En fait, on parle d'une tendance politique lourde qui accompagne une transformation sociale tout aussi lourde. Donc il ne faut pas non plus prendre peut-être trop au sérieux ou pas non plus accorder trop d'importance à ce isme en lui-même, puisque comme beaucoup de ismes, ils cherchent surtout à faire un diagnostic, en quelque sorte. Et ensuite, à partir de ce diagnostic, faire des analyses plus empiriques et plus détaillées par la suite. Nous ne faisons qu'amorcer dans ce texte, finalement, normalement expérimental, qui teste les
hypothèses. Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'on aimerait bien voir dans le populisme une tension vers la communauté qui ne soit pas exclusive et du coup qui représenterait à travers l'abolition de l'ancienne identité une sorte de réconciliation de l'ensemble des prolétaires dans et à partir d'une lutte contre la contrainte à vivre dans des rapports capitalistes complètement pourris. Mais ce qu'on observe, c'est en fait un phénomène tout à fait différent. C'est le fait que le besoin de socialisation, qui pourrait se traduire par des formes de socialisation autres dans un imaginaire politique qui est le nôtre, qui est l'imaginaire du communisme, ne se traduit pas par ces formes-là. Elle se traduit souvent, la plupart des cas, par des formes d'identité exclusive, des formes identitaires. Et on essaie d'interpréter, de comprendre pourquoi, en fait, la désintégration des anciennes formes de sociabilité produit ces crispations-là. Et l'un des éléments qui est esquissé dans ce texte-là, qui est encore vraiment à titre hypothétique, c'est celui d'une sorte de aussi dépossession totale de moyens d'analyse réflexif et critique par rapport à la situation, du fait de la situation de finalement de non accès à des outils critiques qui étaient légués par les traditions politiques précédentes. Hein, le fait de ne pas être intégré dans un collectif de lutte politique dans lequel sont produits des outils critiques par rapport à ces manières d'identifier son appartenance communautaire. Et une hypothèse qui vient à la fin, c'est peut-être celle d'un dépassement possible, mais tout à fait peut-être hypothétique, voire même utopique, de ces limites-là du populisme par une sorte de rencontre entre ces classes, disons, intellectuelles critiques situées dans une gauche radicale, mais dont l'assise sociale est plutôt celle de la classe moyenne, dans une sorte de rencontre de cette classe intellectuelle-là avec le moment populiste. Dans une sorte de radicalisation critique du mouvement populiste contre ces formes réactionnaires. Et ça, c'est une hypothèse que la fin du texte envisage, alors sans lui donner pour autant le statut d'une solution, etc. Mais c'est juste, que se passerait-il si, en fait, les intellectuels critiques d'une certaine gauche, ultra-gauche, bien intégré d'une certaine manière dans certains circuits de reproduction intellectuelle, en venait à se confronter à ce moment populiste. Et en fait, c'est des réflexions qu'on a eues avant l'éclatement de la crise des Gilets jaunes en France et l'ensemble des manières de se positionner par rapport à cette crise qu'il y a eu au sein de la gauche et des mouvements critique un peu en France. Et effectivement, c'est une vraie question qui se pose face à un tel mouvement. Est-ce que on ne peut pas penser, d'autres rencontres que celles du populisme avec sa captation politicienne droitière et réactionnaire? Donc une rencontre qui ne serait pas la forme du populisme au sens politicien, mais une forme d'une reconstitution d'une communauté de lutte. C'est un peu des hypothèses, des questions qu'on se pose un peu vers la fin de notre texte.
Mais qui du coup ne pourrait pas être une reconstitution de la communauté à partir du lieu de travail ou à partir de la socialisation du travail, puisque effectivement, peut-être que contrairement à une hypothèse positive d'ultra-gauche, le deuil est fait de l'idée d'une identité ouvrière ou d'une reconstitution du mouvement ouvrier, même radical, autonome, etc. Mais effectivement, là, on est dans de l'hypothétique, et ce qu'on peut constater en attendant, c'est que, en fait, cette tension à la communauté, elle se fait vers des communautés qui sont en réalité déjà constituées et qui constituent les seules communautés, entre guillemets, en dehors de la communauté du travail, c'est-à-dire la communauté nationale, la communauté religieuse, tout un tas de communautés que certains idéologues de la mondialisation pensent complètement dépassées et qui en réalité aujourd'hui reviennent avec force, précisément parce que, comme vous le dites très bien, le populisme, c'est à la fois voilà, un révélateur de la crise de l'intégration du prolétariat par le travail, qui était voilà, caractéristique du mode de production capitaliste dans sa phase fordiste, mais en même temps, ces communautés elles-mêmes ne sont pas porteuses d'autre chose que d'une reproduction finalement des rapports de production capitaliste sous une forme plus conservatrice, plus islamique, plus locale, mais finalement c'est pour ça que vous parlez du fait que le populisme c'est aussi le dépassement impossible finalement de cette crise de l'intégration de la classe du prolétariat par le travail et ce qui fait que effectivement ce qui domine aujourd'hui c'est plutôt c'est ce retour vers des communautés qui révèlent la crise de la communauté du travail entre guillemets, donc du mouvement ouvrier hein, très concrètement, mais en même temps ces communautés évidemment ne portent rien d'émancipateur a priori, et même pas grand-chose au-delà du capitalisme. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce dépassement par le biais de communautés exclusives est aussi abordé à la fin du texte, où c'est l'hypothèse presque d'une guerre civile généralisée, de néo-féodalisme, etc. Bon, ça, c'est la partie un peu dystopique, slash utopique, pour ce dont tu venais de parler, du texte dont on n'est pas forcément obligé de parler. On invite les auditeurs et les auditrices à s'y reporter pour un peu de politique fiction. Mais en tout cas, c'est vrai que, en tout cas, c'est pour l'instant le constat qu'on peut faire sur la domination de ces communautés compatibles avec la poursuite du capitalisme, mais qui effectivement ne sont pas la communauté du travail.
Et d'autant plus compatible avec la continuation de la société capitaliste, qu'elles n'en sont, en un sens, une expression, ou des expressions, plus précisément. Et ce, aussi bien du côté des différentes fractions de la classe capitaliste, que du côté des différentes fractions du prolétariat. Du côté de la classe capitaliste, parce que justement, s'il y a lieu là aussi de parler du populisme comme une tendance lourde, plutôt que comme un phénomène local, à ce niveau-là, généralement, le moment populiste dans lequel nous nous trouvons révèle en fait des luttes internes aussi à la classe capitaliste. C'est-à-dire qui ont en fait aussi des enjeux bien matériels, qui renvoient à l'impossibilité de se mettre d'accord, par exemple, sur la répartition du surproduit, quoi. C'est-à-dire de ne pas trouver une unité dans un projet politique commun qui orienterait l'ensemble des capitalistes qui, de toute façon, certes, ont toujours été en concurrence les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de dire qu'on a eu auparavant une classe capitaliste parfaitement unifiée socialement, mais en tout cas politiquement, disons, malgré l'alternance entre gauche et droite, la gestion et l'encadrement étatique des rapports sociaux capitalistes se faisait d'une manière moins conflictuelle qu'actuellement dans le moment populiste, où justement ce à quoi on assiste, ce sont des variantes plus ou moins radicales d'une autre façon de gérer le capitalisme, qui par exemple mettrait en place une sorte de retour à des formes de protectionnisme, qui donnerait une place beaucoup plus marginale à la main d'œuvre dite étrangère, et ainsi de suite. Donc déjà dépassement impossible, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau d'une classe capitaliste dont le populisme, justement, n'exprime que les différentes formes d'une impossible conciliation, en fait, ou d'une l'impossibilité apparente d'un consensus à ce niveau-là. Ah, bon, y a qu'à voir, là, tout récemment, on déplore, suite au meurtre d'un enseignant dans un collège non loin de Paris, on déplore l'absence d'une unité nationale. Et en fait, évidemment, ça porte un peu à rire, quoi, parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus qu'une place de la République remplie de drapeaux français et de « je suis enseignant » pour parler d'une forme d'unité nationale. Mais en fait, ce que ça traduit, c'est l'idée qu'en fait, bon, regardez Marine Le Pen, regardez Mélenchon, et regardez les membres de la classe dominante qui les soutiennent, ils ne sont pas capables de nous suivre dans notre gestion technocratique néolibérale de la crise actuelle. C'est de ce côté-là. Mais on observe la même chose, et là je vais être plus bref, on en a déjà parlé, on observe la même chose du côté du prolétariat, puisque précisément la démarche du texte consiste à montrer que les différentes identités en lutte les unes avec les autres, notamment entre prolétaires s'identifiant comme nationaux et prolétaires en tout cas forcés à s'identifier comme immigrés, que dénote cette lutte, que dénote la confrontation de ces nouvelles formes d'appartenance affirmées, bah, elle dénote justement la pluralité des formes populistes, quoi, à ce niveau-là. Et donc, à moins d'avoir une lecture purement, disons, symbolique des choses, qui consisterait à dire qu'en fait, tout ce qu'il faut pour unifier tout ça du côté du prolétariat, c'est un signifiant commun, ce que certains ont cru voir dans le Gilet jaune, bah, à moins de croire que voilà, il pourrait y avoir une sorte d'unification de l'appartenance communautaire en mobilisant simplement un symbole de cette communauté qui ferait consensus, qui pourrait par exemple être l'identité nationale, mais une identité nationale populaire en quelque sorte. Donc à moins d'aller dans ce sens-là, il n'a pas lieu de voir une quelconque base pour un réel dépassement unifié qui se ferait par le populisme. Donc, dépassement au sens où, par le populisme, on atteindrait un stade nouveau de la conflictualité, voire un moment révolutionnaire.
Et oui, le but du texte n'est pas de dégager le noyau émancipateur et révolutionnaire du populisme derrière ces formes nauséabondes, en fait. C'est au contraire la tentative lucide de comprendre ce qui a échoué aussi dans une certaine projection, un certain idéal, qui est celui du potentiel révolutionnaire radical que couvrirait la mise à mal de l'identité ouvrière, de l'identité du coup d'intégration du prolétariat dans la société productive. Et au lieu d'ouvrir un nouvel horizon révolutionnaire radical, ou en même temps que l'ouverture de cet horizon, le phénomène du populisme nous montre une autre tendance objective massive des conséquences de cette restructuration. Et en fait, on essaye de décrire et de comprendre cette tendance-là sans projeter d'espoir révolutionnaire dessus. Donc c'est, disons, qu'on est tout à fait conscient en fait de la forme communautaire exclusive et identitaire que prend le populisme. Et c'est justement l'interprétation qu'on donne de cette forme qui nous est propre. C'est-à-dire cette forme-là vient se substituer à une identité d'intégration ouvrière perdue parce qu'il n'y a, rien d'autre qui est proposé objectivement par la phase du capitalisme dans lequel on est. Et au-delà de ce constat très pessimiste, on essaye de comprendre que le scénario politique sur lequel déboucherait le populisme n'est pas pour autant complètement clos, qu'il y a finalement une possibilité d'investir autrement cette réalité politique-là que celle de sa captation politicienne identitaire.
Et à ce propos, quand on parle de captation, il ne faut pas le comprendre comme récupération, c'est-à-dire dans le sens, disons, militant. Il ne s'agit pas de dire que les différentes fractions des classes dominantes ou hégémoniques, en l'occurrence, puisque c'est aussi... on ne voit pas forcément exactement la même chose. Il ne s'agit pas de dire que ces classes-là...
Donc classe moyenne et classe dominante.
Voilà, c'est ça, classe moyenne et classe dominante. Il ne s'agit pas de dire que ces classes-là, en quelque sorte, volent au prolétariat quelque chose qui, du côté du prolétariat, était pourtant un contenu émancipateur réel pour le travestir dans une forme politicienne. Il ne s'agit pas de dire que ces classes-là récupèrent du côté du prolétariat une chose pour capitaliser dessus politiquement. En fait, il s'agit plutôt, quand on parle de captation, de dire simplement que dans leur discours, c'est-à-dire dans les modes de représentation qu'ils essayent d'installer, ces classes s'appuient sur, encore une fois, une réalité objective qui est produite par la restructuration. Et donc, à ce niveau-là, en fait, de faire le même lien entre la réalité produite par la restructuration d'une part et le moment populiste d'autre part, que on peut le faire entre une certaine configuration du rapport de classe qui permettait une intégration ouvrière d'une part et la possibilité d'une représentation politique du prolétariat d'autre part. C'est en fait à un tel niveau de généralité qu'on se place et évidemment ce niveau de généralité là n'est pas suffisant. On peut dire, c'est en ce sens, oui, il y a en fait ce texte comme je dirais d'ailleurs les autres textes de ce premier numéro esquisse des cadres, des pistes dans lesquelles nous avons l'intention de continuer à opérer pour tester en fait ces hypothèses, pour voir dans quelle mesure elles marchent. Mais bon, il y a quand même quelque chose à dire à propos de ce texte, c'est que réellement, hein, c'est pas un mensonge. Il a commencé à être rédigé en décembre 2017 et sans vouloir lui prêter une quelconque dimension prophétique, il faut dire que à la lecture de ce texte aujourd'hui, on est assez frappé quand même par le fait que certaines des hypothèses esquissées là-dedans ont trouvé une forte résonance avec le mouvement des Gilets jaunes à plusieurs niveaux. Hein, donc, je pense qu'à ce niveau-là, du coup, ça montre qu'il y a des choses à creuser davantage.
Oui, et puis on pourrait dire qu'il y a aussi un écho évidemment avec la situation avec le coronavirus, puisque voilà, c'est la trajectoire politique de l'humanité superflue, ouais. Et effectivement avec le retour d'une forme de darwinisme social et puis aussi une crise du capitalisme qui s'annonce assez massive avec probablement un recours à l'automatisation qui aura d'autant plus d'avantages. Donc effectivement, on peut penser que effectivement ce texte qui comme je l'avais dit, peut-être est un petit peu en avance sur son temps, à la fois peut-être négativement, mais aussi peut-être positivement, dans le sens où il nous dit aussi peut-être quelque chose de l'avenir du capitalisme et des luttes sociales, même si évidemment la toute fin de l'article est vraiment plus de la politique fiction que simplement un petit peu en avance sur son temps, quoi. Donc on vous remercie beaucoup du coup de nous avoir parlé de ce texte, donc Populisme, une trajectoire politique de l'humanité superflue. Donc là on a exploré voilà un petit peu les points centraux du texte, mais évidemment il y a une partie empirique voilà, qui développe longuement les différentes formes que le populisme prend en fonction des classes sociales, en fonction des pays. Voilà, on invite vraiment aussi les auditeurs et les auditrices en complément un petit peu à se reporter à cet article central et un peu programmatique, entre guillemets, de la revue Stoff, donc de son numéro 1. Donc merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.